Deutsche Welle, émission spéciale.
Vous écoutez bien la radio allemande internationale, il est 17h en temps universel et à Abidjan, une heure de plus à Brazzaville et en Allemagne. Ce dimanche 25 octobre est une journée d'élection dans de nombreux pays. Nous consacrerons une grande partie de cette émission à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Avant de donner la parole à nos invités sur le sujet, nous ferons un point sur le référendum contesté au Congo-Brazzaville où le président Sassou Nguesso cherche à briguer un nouveau mandat. Mais tout de suite, voici le Flash Info, il est présenté par Sandrine Blanchard.
Bonsoir Anne et bonsoir à tous. L'Union européenne risque d'imploser si aucune action immédiate et concrète sur le terrain n'est prise dans les jours à venir. La déclaration du Premier ministre slovène Miro Cerar donne le la à l'ouverture d'un mini-sommet européen de Bruxelles. Ces 10 derniers jours, la Slovénie a vu transiter plus de 60 000 migrants, des dirigeants de 10 États membres dont l'Allemagne ainsi que 3 pays frontaliers, Albanie, Macédoine et Serbie, participent à cette réunion. Elle vise à trouver une solution collective à la crise des migrants, une solution qui pourrait passer notamment par une protection renforcée des frontières extérieures de l'Union européenne dans les Balkans, selon le projet de déclaration finale. Le bilan d'une attaque revue à la hausse en Libye. 12 personnes ont été tuées et 39 blessées dans l'attaque qui a visé une manifestation contre un projet de l'ONU du gouvernement d'Union à Benghazi. L'attaque n'a pas été revendiquée. La mission des Nations Unies pour la Libye a appelé les Libyens à rejeter la violence comme moyen de règlement des différends politiques. Au lendemain d'un accord entre la Jordanie et Israël sur l'esplanade des mosquées, les tensions restent vives en Cisjordanie. Une Palestinienne a été tuée par des policiers israéliens qu'elle menaçait avec un couteau. Des troubles ont également eu lieu dans le secteur d'Hébron, où un Palestinien a blessé un Israélien à l'arme blanche avant de pouvoir s'enfuir. Un autre a été grièvement blessé par un colon israélien alors qu'il participait à la récolte des olives. Les autorités palestiniennes ont par ailleurs accueilli avec méfiance l'idée d'une vidéosurveillance permanente sur l'esplanade des mosquées, une mesure proposée comme mesure d'apaisement. Le vice-chancelier allemand entame par ailleurs une visite de 2 jours en Israël. Sigmar Gabriel doit notamment s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour évoquer les relations économiques entre leurs 2 pays. Les Tanzaniens ont voté nombreux et dans le calme aux élections générales. Environ 23 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs députés et représentants locaux, mais aussi le successeur de l'actuel chef de l'État, Jakaya Kikwete, qui ne se représentait pas conformément à la Constitution après avoir achevé son second mandat. Aucun incident majeur n'a été rapporté de Tanzanie, comme le confirme Hélène Kidjo Bisimba. Elle est directrice du Centre pour les droits de l'homme, LHRC.
Les opérations de vote des élections générales se sont bien passées, les gens ont bien participé et nous n'avons enregistré que des anomalies mineures.
Et certains observateurs redoutent toutefois des violences post-électorales car pour la première fois depuis l'indépendance de la Tanzanie, le parti au pouvoir CCM pourrait ne pas remporter le scrutin. La course se joue entre John Magufuli, candidat du CCM, et l'ancien Premier ministre Edward Lowassa, soutenu par 4 partis d'opposition. Un vote et le calme aussi en Haïti pour les élections générales au cours desquelles les électeurs doivent choisir leur nouveau président et renouveler la quasi-totalité du paysage politique. La participation est en nette hausse par rapport aux dernières élections. Les 5,8 millions d'électeurs ont jusqu'à 20 heures temps universel pour déposer leur bulletin dans les urnes. Les forces de l'ordre sont davantage présentes et visibles à Port-au-Prince que lors du premier tour des législatives, c'était le 9 août dernier. 2 personnes avaient alors été tuées dans des violences. Encore une élection présidentielle, cette fois en Argentine. Le candidat du parti au pouvoir, Daniel Scioli, part favori dans la course à la succession de Cristina Kirchner. Le gouverneur de la région de Buenos Aires veut poursuivre la politique du couple Kirchner qui a dirigé le pays depuis 2003. Son adversaire principal est le maire de Buenos Aires, Mauricio Macri. Et si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour sera organisé le 22 novembre. Et comme je vous nous disait qu'on vote un petit peu partout aujourd'hui, en plus de la Côte d'Ivoire dont nous allons reparler dans un instant bien sûr, du référendum au Congo, d'autres élections dans la partie est de l'Ukraine, avec une situation inacceptable. Ce sont les termes employés par le président ukrainien qui a ainsi réagi à l'annulation des élections municipales à Mariupol, qui est la dernière grande ville sous contrôle de Kiev dans l'est séparatiste pro-russe. Les bureaux de vote n'ont pas ouvert dans la ville portuaire où les pro-russes étaient leaders dans la course, officiellement à cause de problèmes avec les bulletins. Et puis encore, une élection, 30 millions de Polonais étaient appelés aux urnes pour renouveler leur parlement. Les sondages donnent les conservateurs catholiques gagnants face aux libéraux centristes.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Je vous le disais dans les titres, nous allons consacrer une large place dans cette émission à la présidentielle en Côte d'Ivoire. En ligne depuis Abidjan, nous accueillons Daouda Seck, observateur pour la Fondation allemande de Friedrich Naumann. Bonsoir, monsieur Seck.
Bonsoir, madame.
Également au téléphone, le sociologue Séverin Yao Kouamé, enseignant à l'université de Boaké et coordinateur d'Indigo Côte d'Ivoire, initiative de dialogue et de recherche-action pour la paix. Bonsoir, monsieur Kouamé.
Oui, bonsoir madame.
Bonsoir. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose tout d'abord un détour par le Congo, car le Congo a voté également aujourd'hui. C'était vert pour oui ou rouge pour non. Les Congolais étaient appelés à se prononcer sur une modification de la constitution. Des changements destinés à permettre au président Denis Sassou Nguesso de pouvoir se représenter en 2016, alors que dans les dispositions de la constitution actuelle, il n'en aurait pas le droit. Plusieurs coalitions d'opposition ont appelé à boycotter ce référendum. Les bureaux viennent tout juste de fermer, mais la participation semblait assez faible à la mi-journée à Brazzaville, notamment dans les quartiers sud, plus proches de l'opposition, où il fallait une autorisation spéciale pour pouvoir traverser la ville en voiture. Alors comment s'est passée la journée dans la deuxième grande ville du pays, Pointe-Noire ? La réponse avec notre correspondante sur place, Rosie Piot.
La journée de vote aujourd'hui s'est déroulée dans le calme. L'ouverture des bureaux de vote s'est déroulée entre 7h et 9h. Et donc, petit à petit, timidement, les électeurs sont arrivés dans les bureaux de vote. J'ai pu en visiter 3. Et donc, chaque électeur qui arrivait devait d'abord vérifier son nom sur la liste avant d'entrer dans le bureau. Et tout s'est passé dans le calme.
Quelle était l'affluence dans les bureaux que vous avez pu visiter?
Vu déjà l'appel au boycott que l'opposition avait lancé, il n'y a pas eu d'affluence si massive que ça, mais il y a eu quand même des électeurs qui se sont déplacés, votés.
À Pointe-Noire, comme à Brazzaville ou dans le reste du pays, il n'y a pas eu de gros incidents signalés aujourd'hui?
En tout cas, jusqu'à ce moment, il n'y a eu aucun incident signalé. Par contre, la CONEL, la commission électorale, par la bouche de son coordonnateur, a signalé qu'il y a eu des localités du Poule et de l'Alekoumou, ce sont des départements du pays, qui n'ont pas pu ouvrir leur bureau des votes. Pour quelles raisons? Cela n'a pas été dit. Il a juste donné cette information en affirmant que les détails seront donnés ce soir au cours du JT de la chaîne nationale.
Voilà, c'était Rosie Piot, notre correspondante jointe il y a quelques instants à Pointe-Noire. L'opposition congolaise et certaines organisations de la société civile avaient donc appelé la population à boycotter le vote. Parmi elles, le comité de résistance et d'action pour le Congo, ou CRAC. Sandrine Blanchard a joint Lambert Ona, militant du CRAC. Il est hostile au référendum sur le fond et sur la forme et il dénonce des manipulations durant le vote. Écoutez-le.
La situation est tout à fait morose.
La situation est tout à fait morose. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans le bureau de vote. Si on prend l'exemple de toute la partie sud, personne dans le bureau de vote. Sauf que maintenant, ils sont en train de donner 5 000 francs dans le quartier nord pour aller voter à Bakongo. Il y a des mécontents, bien sûr, mais les mécontents vont se traduire en oui. Le non sera transformé en oui. Les résultats seront contestables. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait dans la Constitution soit placé des garde-fous pour un individu qui est péché. Voler, piller ne sont pas punissables. Je ne peux pas accepter cela comme tel.
Je ne peux pas accepter ça comme tel.
Voilà, c'était Lambert Ona, militant du comité de résistance et d'action pour le Congo, dont nous avons dû faire parler la voix parce que la liaison était trop mauvaise. Le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme nous a, lui, confirmé que le référendum s'était déroulé paisiblement, mais que l'affluence dans les bureaux de vote était très faible. Par ailleurs, lui aussi a eu vent de fraude, et notamment de l'envoi de jeunes des quartiers nord de Brazzaville acquis au pouvoir pour qu'ils aillent voter dans les quartiers sud, traditionnellement plus contestataires.
Deutsche Welle, le monde à votre portée.
En Côte d'Ivoire, les bureaux de vote ferment dans moins d'une heure et c'est pour élire leur président que plus de 6,3 millions d'électeurs sur les 23 millions d'habitants étaient appelés aux urnes. Le sortant Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession. En face de lui, une opposition divisée. Pascal Affine-Guessant, investi par le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, est considéré comme le principal challenger d'Alassane Ouattara. Deux femmes figurent également parmi les 7 candidats encore en lice. La campagne a en effet été marquée par le retrait de 3 candidats, Amara Issi, ancien ministre des Affaires étrangères, Mamadou Koulibaly, ex-président de l'Assemblée nationale, et enfin l'ancien Premier ministre Charles Konan Bani qui a jeté l'éponge vendredi. Alors les regards sont bien sûr tournés vers la Côte d'Ivoire, 5 ans après les violences post-électorales qui avaient suivi la dernière présidentielle. Plus de 3000 personnes avaient été tuées. Pour ce scrutin, 34 000 soldats, dont 6 000 casques bleus, ont été déployés pour assurer la sécurité. Des appels au calme ont été lancés pendant toute la campagne pour des élections apaisées. Je vous propose d'entendre premièrement un reportage de notre correspondant Julien Adaillé qui a parcouru plusieurs bureaux de vote ce matin.
Le prochain titulaire,
c'est
Yao Rémi.
Nous sommes ici dans un centre de vote à la Riviera dans la commune de Cocody. Il est 7h20 et c'est maintenant que les agents de la commission électorale indépendante remettent les mandats à leurs représentants dans ce centre. Et depuis 6h30, une centaine d'électeurs attendent devant cette école pour voter. Au nombre de ceux-ci, Kwame Ekra, qui est arrivé ici depuis 5h.
Fallait venir un peu plus vite parce que j'ai des occupations à faire.
8h, rien n'a encore commencé dans ce centre. C'est plutôt la pluie qui s'invite dans le débat. Mais cela n'empêche pas les électeurs d'affluer. Alain Monet est arrivé tout trempé, accompagné ses 3 enfants voter pour la toute première fois.
Aujourd'hui, c'est le jour pour choisir le président. Si c'est la pluie, c'est le vent, il faut qu'on vienne.
20 minutes plus tard, les électeurs commencent à s'énerver et pour cause.
On arrive à 7h, c'est maintenant que les agents arrivent et qu'ils mettent tout en place. On n'a pas que ça à faire un dimanche matin.
Tant qu'ils ont dit là, c'est pas ça qui est là. On dit 7h, il est 8h, on s'en rend à 9h, c'est pas normal.
Pour comprendre le motif de ce retard dans le démarrage du vote, nous avons approché Amara Sissoko, responsable de la commission électorale indépendante dans cette école.
Aujourd'hui, il pleut. Nos agents n'ont pas pu être à leur poste à l'heure, mais je crois que dans les 15 minutes qui suivent, tout sera ouvert.
Mais Solange Ama, agent CEI dans un des bureaux de vote, nous donne un autre motif.
À la formation, d'abord, on n'a pas vraiment une formation pratique sur la tablette. En plus, on pourrait dire qu'il y a une lenteur. On n'a pas tout le kit même vraiment au complet. Et les superviseurs ne sont pas toujours là aussi pour nous guider. Vraiment, c'est difficile.
Autour de 9h, sous la pression des électeurs, les agents de la commission électorale indépendante décident d'abandonner la tablette et de faire voter de façon manuelle. 10 minutes après, les premiers électeurs peuvent sortir du bureau de vote. Landry Monet et Georges Amian votent pour la toute première fois, mais ne partagent pas les mêmes sentiments.
Je suis vraiment ému, je suis vraiment très content de participer au vote de mon pays.
Découragé par le fait du manque de professionnalisme.
Le problème du vote électronique a été constaté dans plusieurs bureaux de vote à Abidjan et à l'intérieur du pays et a fait accuser un retard énorme dans le démarrage du scrutin. Avec le boycott lancé par certains partis de l'opposition et la pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce dimanche, risque de jouer de façon négative sur le taux de participation. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Alors Daoud Assek, vous observez le scrutin pour la fondation allemande Friedrich Naumann. Quel constat avez-vous fait dans les bureaux que vous avez visités dans la journée?
Oui, d'abord il faut préciser, madame, que l'élection s'est déroulée dans un calme et puis les citoyens ivoiriens ont pu se déplacer, aller voter tranquillement et rentrer chez eux. Bon, mais il faut comprendre aussi que pour cette élection, il y avait deux défis à relever. Le premier, c'était d'ordre organisationnel, c'est-à-dire, je pense que c'est la première élection après la crise de 2010-2011. Il fallait que ça soit bien organisé. Ensuite, le défi lié à la participation, c'est-à-dire au taux de participation. Bon, pour le premier défi lié à l'organisation, il faut noter qu'il y a quand même quelques manquements parce que il y a eu l'introduction pour la première fois en Côte d'Ivoire de la biométrie pour l'identification et l'authentification des électeurs. Et à ce niveau, quand même, il y a eu quelques vagues parce que au niveau de certains bureaux de vote, les tablettes sont arrivées, bon, pour certaines à 9h, même pour certains bureaux de vote vers 10h, voire même 11h, ce qui a un peu retardé le processus. Donc certains bureaux de vote n'ont commencé qu'à partir de 11h. Donc c'est vrai que ça ne va pas trop entacher la transparence de l'élection, mais au plan organisationnel, quand même, il faut noter qu'il y a quelques manquements.
Oui, apparemment, il y avait aussi des problèmes de formation de certains personnels dans les bureaux de vote qui ont découvert quasiment la tablette lorsqu'ils ont commencé leur travail au bureau.
Oui, c'est-à-dire que pour certains, c'est la première fois, c'est à partir de ce matin qu'ils ont vu la tablette, il fallait comprendre la méthode et puis c'est pour la première fois qu'il la manipule. Ce fait que vraiment, bon, c'est pas trop facile à leur niveau. Bon, même au niveau de certains bureaux de vote, il y a certains qui ont préféré quand même se passer de la tablette parce qu'il y a eu un plan B, c'est-à-dire que lorsque la tablette ne marche pas, ils ont la possibilité quand même de procéder comme avant, c'est-à-dire d'identifier l'électeur à partir de sa carte et puis de le faire voter comme ça. Mais le problème qui va se poser maintenant, c'est la transmission des données. Parce que normalement, les données doivent être centralisées d'une manière numérique à partir des bureaux de vote et transmises à la centrale au niveau de la CI. Bon, certains présidents de bureau nous disent qu'ils n'ont pas encore reçu d'instructions pour leur dire comment est-ce que ces données, c'est-à-dire les électeurs qui ont voté sans la biométrie, comment est-ce qu'ils peuvent voir leurs données être transmises, par exemple, à la centrale au niveau de la CI.
Merci, Monsieur Sec. Monsieur Séverin Yao Kouamé, comment est-ce que vous avez, vous, vécu cette journée de vote?
Je l'ai vécu comme tous les citoyens ivoiriens. D'abord, moi, j'ai accompagné mon épouse voter, puisqu'on s'est fait enrôler sur le campus universitaire de Cocody, lorsqu'on y habitait. Donc, je l'ai accompagné. Et comme M. Konaté, on a constaté justement que cette question de la mobilisation, en tout cas aux premières heures, n'était pas conséquente. Et donc, au-delà de cela, ça n'est pas une place dans la ville. Donc, a priori, les risques ou les craintes de d'incidents, en fait, sont minimes.
Donc, il n'y a pas eu d'incident dans le quartier de Cocody, c'est ce que vous dites?
Non, je pense qu'il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident.
Alors, Cocody, c'est justement le quartier dans lequel Alassane Ouattara a déposé son vote. Julien Daillé, notre correspondant, a recueilli ses déclarations juste après que celui-ci avait accompli son devoir électoral. Je vous propose de l'écouter. Il a appelé tous les Ivoiriens à se déplacer massivement pour aller voter.
Nous voulons que la Côte d'Ivoire entre de manière définitive dans la démocratie et que les élections de cette année nous permettent d'effacer et d'oublier le processus électoral mal terminé en 2010. Et nous devons donc faire en sorte de sortir de cette élection avec la paix, la sérénité et nous rassembler davantage pour faire face aux autres défis qui attendent la nation ivoirienne.
Alors, Julien Daillé a également recueilli la déclaration de Conan Kouadio Siméon, qui avait déjà été candidat à la présidentielle de 2010. Écoutez-le.
Aujourd'hui est un jour important. Cette élection, après l'espoir déçu de 2010 et cette tragédie que nous avons connue, eh bien, cette élection est véritablement une ultime chance de sortir définitivement de cette longue crise que nous avons connue.
Alors, on a entendu Alassane Ouattara et Conan Kouadio Siméon appeler leurs concitoyens à voter. Tous les candidats ont d'ailleurs lancé un appel similaire depuis leur circonscription. Mais donc, on n'a pas encore de chiffres officiels, mais l'appel ne semble pas avoir été complètement suivi. En 2010, il y avait eu 80% de participation. C'était vraiment visible aussi pendant la journée de vote. Monsieur Sec, est-ce que les critiques sur l'organisation du scrutin, qui avaient été dites en amont d'ailleurs, notamment sur la distribution des cartes d'électeurs, sur le fichier électoral, est-ce que ces critiques ils sont pour quelque chose?
Non, je pense que ces critiques, même s'ils peuvent être fondées, ne peuvent en aucun cas entacher la transparence de cette élection. Parce qu'il faudra le noter, comme je l'ai précisé, la biométrie a été introduite, donc il n'y a pas possibilité pour ce qui est des électeurs de voter à deux reprises ou plusieurs fois. Mais je dois préciser que cette élection, c'est pour parler un peu du taux de participation, si vous voulez. Cette élection est jouée d'avance, à mon avis. Le président Ouattara n'a qu'un seul adversaire de taille, c'est le taux de participation. C'est-à-dire, l'élection, c'est aussi pour légitimer un pouvoir politique. Il vient de boucler 5 ans de pouvoir, 5 ans de règne à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il demande encore les suffrages de ces populations, d'abord pour sanctionner positivement ces 5 ans, mais pour leur demander encore un autre quinquennat. Et je crois que là, il a besoin d'un taux de participation assez élevé pour quand même légitimer son pouvoir politique. Et là, j'ai quand même quelques inquiétudes à ce niveau.
D'accord. Et Monsieur Séverin Yahoukouamé, vous partagez cette analyse?
Oui, et je pense qu'il faut même aller plus loin dans cette analyse parce que, à la vérité, il faut comprendre la structure même des comportements électoraux en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on regarde un peu le rétroviseur, les échéances, en dehors des échéances de 2010, de l'élection présidentielle de 2010, toutes les autres échéances n'ont pas suscité un engouement particulier de la part des populations, pour diverses raisons. Je pense que l'une des premières raisons, c'est qu'en fait, il y a que le personnel politique est partagé. En fait, en termes de personnel politique, on a 3 grandes figures qui cristallisent en fait 3 aspirations différentes de Côte d'Ivoire. Quand on regarde en fait la structure électorale telle qu'elle s'est exprimée par exemple au niveau du vote de 2010, c'est que, comme je l'ai dit, 3 aspirations de Côte d'Ivoire. Une première aspiration de Côte d'Ivoire qui est celle d'une Côte d'Ivoire plus inclusive, plus généreuse dans la jouissance du bien public, mais plus généreuse aussi par rapport à toutes ces personnes non natives de la Côte d'Ivoire qui sont issues de l'immigration et qui aujourd'hui sont à leur deuxième ou à leur troisième génération, qui ont besoin d'être reconnues comme partie intégrante de cette Côte d'Ivoire-là. Et cet électorat qui porte justement cette demande d'une Côte d'Ivoire plus inclusive et plus généreuse. C'est cet électorat qui se retrouve autour de M. Ouattara, par exemple. Un autre électorat qui se retrouve, par exemple, autour de la figure de M. Laurent Gbagbo à l'époque, c'est cet électorat qui est celle-là d'une Côte d'Ivoire qui n'a pas forcément connu la Côte d'Ivoire de Faure Boigny et qui est demandeuse d'une réinvention autre de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on accuse beaucoup les porteurs de ce type de vision et de demande de Côte d'Ivoire d'être structurés dans leur approche dans une Côte d'Ivoire en termes de leitmotiv Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, mais en fait c'est une Côte d'Ivoire qui est demandeuse de plus d'équité dans l'accès aux opportunités. Et puis la troisième vision de Côte d'Ivoire qu'on peut lire, c'est celle-là qui se structure par exemple autour de l'électorat du PDCI et donc de M. Bédier, qui est en fait une Côte d'Ivoire qui est un peu nostalgique de l'ère Oufouette, où on a parlé justement de gestion relativement prébendière des pouvoirs publics, des ressources nationales, mais c'était une gestion qui assurait une redistribution dans laquelle tout le monde se retrouvait un peu. Donc en fait, ce sont 3 visions de Côte d'Ivoire qui se sont affrontées lors des élections de 2010 et avec une population électorale particulière, parce que les élections de 2010 ont vu entrer dans le corps électoral un autre type d'Ivoirien, c'est-à-dire tous ces enfants de la crise. Donc, tout ça a contribué à gonfler le corps électoral et à susciter, vu justement qu'ils étaient démarchés sur ce qui faisait leur fragilité. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire qui était demandeuse d'inclusivité, mais c'est tous ceux-là, originaires de la sous-région, originaires du septentrion ivoirien, qui se retrouvaient autour de cette question de l'exclusion. Donc, en gros, il faut relativiser la question de la participation électorale parce qu'en dehors de 2010, donc, comme je le disais, il n'y a pas eu vraiment un afflux massif. Donc aujourd'hui, Ouattara se retrouve, dans ces élections de 2015, se retrouve dans la donne qui est celle-là, qui est que justement, ces 3 visions n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer.
Merci, monsieur. Oui, merci, monsieur Kamé. Monsieur Seck, quelles conséquences peuvent avoir, selon vous, le retrait des 3 candidats, Amara Essi, Mamadou Coulibaly et puis Charles Konambani, vendredi sur la suite de cette élection, le résultat de cette élection?
Je pense qu'il y aura forcément un report des voix, c'est-à-dire l'électorat qui devrait être destiné, par exemple, à ces trois candidats. Il faudra maintenant analyser vers quelle direction va aller cet électorat. Bon, du côté de Pascal Assinguessan, bon, moi je trouve qu'il a fait le maxi, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la possibilité de bénéficier de cet électorat, d'autant plus que de toute façon, en interne déjà, il y a une déchirure, il y a eu un appel au boycott en interne, c'est-à-dire qu'il ne va pas bénéficier donc de l'électorat qui viendra d'une partie du SPI, mais aussi de l'autre côté du candidat Charles Konambani et de l'ancien de Mamadou Coulibaly et autres. Je pense que cet électorat va être dispersé entre le candidat Alassane Ouattara et le candidat Kakabé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que celui qui va le plus gagner, celui qui va le plus bénéficier donc de cet électorat, ce sera le candidat Alassane Draman Ouattara.
Merci, Monsieur Seck. Alors, vous avez parlé du boycott d'une partie du FPI. Il y a un absent, évidemment, dans cette course électorale, mais dont l'ombre plane sur cette élection. C'est évidemment Laurent Gbagbo, l'ex-président, qui attend son procès à La Haye. Je vous propose d'écouter le point de vue de Pascal Brou-Aka, qui avait animé en 2010 le débat entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo à la veille du second tour de la présidentielle. Son point de vue sur cette absence.
Monsieur Laurent Gbagbo est à La Haye pour des raisons que vous savez. Son parti est divisé. Ceux qui le soutiennent ont décidé de boycotter les élections. Le président du parti a aussi ses partisans. Il a décidé de se présenter. On ne peut pas dire que l'absence de Monsieur Laurent Gbagbo à la présidentielle pose un problème à la réconciliation. On ne peut pas véritablement parler d'absence. Les hommes politiques les plus significatifs sont dans cette course. En la personne de Monsieur Affine Guessant, qui est le président du Front populaire ivoirien, et le président de la République, Alassane Ouattara.
Alors, Monsieur Kwame, vous travaillez auprès des populations dans le cadre de l'initiative Indigo de Dialogue pour la Paix. Est-ce que vous avez l'impression que les Ivoiriens sont aujourd'hui réconciliés ou alors que les risques avancés par les responsables politiques pendant la campagne sur des violences aussi post-électorales sont à prendre au sérieux?
Je pense qu'il faut dépasser le cadre de la violence post-électorale. Il ne s'agira pas fondamentalement de violence post-électorale, mais il s'agit plutôt justement de ressentiments profonds qui, mal géré, risque de se cristalliser davantage. Je ne suis pas totalement d'accord avec M. Brouaka lorsqu'il dit que le personnel politique majeur est présent. Je pense que, qu'on le veuille ou pas, la figure de Laurent Gbagbo structure un certain nombre d'attentes, une vision, comme je le disais tantôt, de Côte d'Ivoire. Et donc, qu'on le veuille ou pas, dans certaines parties du pays, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur du pays, il y a autour de la figure de ce monsieur un certain nombre de comportements qui sont structurés autour de ça. On a l'avantage de travailler avec les populations mais qui vous le disent, parce que derrière cette image ou cette attente, cette demande de Côte d'Ivoire qui se réinvente à travers des modalités de redistribution des ressources qui privilégient les Ivoiriens, il y a que un des éléments importants, justement, dans la stratégie politique des uns et des autres, c'était de jouer sur les cadres locaux. Et beaucoup de ces cadres, notamment dans l'Ouest ou autre, ne sont pas présents, alors que c'est par eux que s'assurait justement cette redistribution. Donc, quand vous arrivez avec les populations, elles vous le disent. Elles vous disent, voilà, vous voulez qu'on aille à la réconciliation. Mais ceux-là qui assuraient notre présence, ou notre semblant de présence dans l'État, dans l'appareil d'État, à travers justement cette capacité qu'ils avaient à redistribuer à tort ou à raison, ne sont pas là. Donc pourquoi est-ce qu'on va à cette réconciliation? Comment est-ce qu'on va à cette réconciliation si ce maillon, dans la chaîne de transmission, dans la chaîne qui nous lie à l'État, n'est pas disponible? Donc je crois que c'est un élément dur qu'il faut tenir compte, parce que, à la vérité, je pense que beaucoup plus que des défis de développement, etc., il y a toute la question même des enchaînements à tirer de ce que sera ce vote.
Merci, Monsieur Kwame. N'oubliez pas, chers auditeurs, vous pouvez toujours nous dire ce que vous pensez de cette présidentielle et vous pouvez nous contacter, déposer un message sur notre page Facebook.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
Alors, il faut malheureusement que je dise déjà au revoir à nos invités parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, merci à Séverin Yao Kwame, sociologue et coordinateur de l'initiative Indigo, de dialogue et de recherche Action pour la paix, et à Daouda Seck du Bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation allemande Friedrich Naumann. Merci pour vos analyses. Avant de se quitter, un dernier point sur cette journée de vote avec notre correspondant Julien Dallier qui est en ligne depuis Abidjan. Bonsoir Julien.
Bonjour Aude.
Bonsoir. Alors, on a entendu votre reportage tout à l'heure. Quelle est l'ambiance maintenant en ce début de soirée à Abidjan, alors que les bureaux donc doivent fermer bientôt, et dans le reste du pays où vous avez aussi des observateurs?
Oui, effectivement, il faut dire, Aude, que tout s'est bien passé sur Abidjan de façon générale dans un calme précaire, d'autant plus qu'il y a une pluie qui s'est invitée dans le processus électoral qui a démarré donc ce matin. Les bureaux de vote qui devaient s'ouvrir depuis 7 heures ont eu du mal à s'ouvrir à cause de deux raisons fondamentales. Non seulement les agents commis à la tâche n'étaient pas bien formés, donc ne maîtrisaient pas les outils, n'est-ce pas, appropriés qu'ils aient servi à l'utilisation ou à ce vote. Deuxième autre chose, c'est que d'abord deux partis, une force politique, donc une branche du FPI a invité ses partisans à boycotter, n'est-ce pas, cette élection présidentielle. Et donc il y a eu une peur, n'est-ce pas, préalable au niveau de certains électeurs. Vendredi déjà, nous avons assisté dans les supermarchés d'Abidjan à une certaine affluence dans les supermarchés où certaines populations sont sorties pour s'approvisionner parce que, disent-elles, ne sont pas sûres de la tranquillité, de la paisibilité de cette élection-là. Et nous sommes allés jusqu'à Yopougon, Yopougon qui est donc le quartier dit pro-Bako, où les gens sont sortis vraiment timidement, et c'est à la limite près si les agents commis pour l'électorat ou l'élection présidentielle dans ce quartier de Yopougon n'étaient pas en train de se tourner le pouce, il n'y avait pas d'électeur. Mais en revanche, à l'intérieur du pays, dans la partie nord, nous avons joint des observateurs à Korogo, à Boaké et à Kong. Effectivement, les choses se passent bien. Et là-bas, effectivement, c'est le fief de M. Alassane Dramon Ouattara, président d'autres sortants, et qui a fait campagne dans cette partie de la Côte d'Ivoire.
Merci.
Et dans l'ouest du pays, oui, tous réclament la paix parce que l'ouest du pays a connu les pires atrocités de toutes les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. En somme, nous attendons, tous les regards seront tournés dans quelques heures seulement vers la CEI, la Commission électorale indépendante, qui a été aussi à la base de la crise que nous avons connue en 2010 et qui a été aussi revendiquée, dont la réforme a été revendiquée par plusieurs partis de l'opposition en Côte d'Ivoire.
Merci Julien, on n'a plus le temps malheureusement pour d'autres détails. Sachez que de nombreux commerces ont fermé leurs portes à Boaké, donc dans l'attente des résultats. Vous savez quand est-ce qu'on peut compter sur les premiers résultats ?
Les premiers résultats seront déjà publiés ce soir sur les antennes de la télévision nationale à partir de 21h. Et les journalistes accrédités seront donc invités à participer à cette nuit électorale.
Okay.
Et la CEI va s'adresser à partir de mercredi probablement à la nation ivoirienne pour donner justement les résultats provisoires, mmh, en attendant que ces résultats ne soient confirmés par le Conseil constitutionnel.
Merci Julien Daillé, merci à tous nos deux invités, merci à tous aussi d'avoir suivi cette émission spéciale. Restez à l'écoute puisqu'il est 17h presque 31 en temps universel et c'est l'heure de retrouver maintenant Afrique 7 jours avec Eric Topona.